Vous écoutez RTL.
RTL.
D'étranges lumières dans le ciel. Des objets se déplaçant à des vitesses incroyables, défiant les lois de la physique.
La curiosité d'un vilain défaut.
Des vaisseaux venus d'un autre monde.
Jusqu'à 22h.
Ils existent, ils sont là.
Le mystère des ovnis fascine et déroute.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Alors dans les romans, dans les films de science-fiction, dans les récits des passionnés d'ovnis, on a trouvé des extraterrestres, on en a beaucoup, mais les humains n'ont toujours pas prouver leur existence. Pourquoi ? C'est la question que se pose le magazine Ça m'intéresse en partenariat avec RTL. Bonsoir Audrey Bolli.
Bonsoir.
Bienvenue.
Bonsoir, bienvenue à vous.
Très heureux de vous accueillir dans cette émission. Vous êtes donc journaliste pour Ça m'intéresse. Et cette question, elle est encore plus forte chez les scientifiques depuis le mois de février. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé en février ?
Bah oui, en fait, en février, la NASA a annoncé qu'elle avait découvert un système planétaire, alors très très loin d'ici, mais qui ressemble beaucoup au système solaire. Et alors du coup, les scientifiques espèrent un jour y trouver une forme de vie.
Alors, il s'appelle TRAPPIST. On en avait parlé ici même, si Denis, vous vous souvenez de ce nouveau système planétaire. À quoi il ressemble et pourquoi on l'a appelé TRAPPIST ?
Alors, en fait, ce système planétaire contient 7 planètes, dont 3 qui sont des planètes dites habitables. Et donc, on va expliquer un petit peu ce que ça veut dire. Mais d'abord, le nom de ce système, donc TRAPPIST, c'est le nom de l'étoile. Et en fait, ce nom vient du télescope qui a découvert ce système planétaire, qui s'appelle TRAPPIST. En fait, c'est un télescope belge qui est installé au Chili. Et du coup, les Belges ont voulu rendre hommage à leur pays et à leur bière.
C'est une bière aussi, la TRAPPIST.
Voilà, exactement. et donc, comme ils sont fans de cette bière et très fiers de leur culture, ils ont appelé ce télescope TRAPPIST.
C'est de l'humour belge, comme on l'aime.
Balancer dans les étoiles.
C'est une très bonne idée.
Ce système petit clin d'œil planétaire, TRAPPIST, il est situé à quelle distance de la Terre ?
Alors, il est à 40 milliards d'années-lumière.
D'accord.
Alors là, on est perdu. Ça fait très très loin, c'est ça.
Ça fait extrêmement, extrêmement loin.
C'est-à-dire avec nos moyens technologiques, on peut pas y aller, que les choses soient
claires. Alors on peut pas y aller, mais par contre, on peut les observer avec nos télescopes.
Voilà. Et oui, et c'est ce qui permet aussi évidemment cette distance d'expliquer pourquoi on n'a pas de contact avec les extraterrestres. Ils sont sans doute trop loin.
Alors oui, ils sont probablement très loin. Alors c'est vrai que là, par exemple, ce système planétaire-là, on peut l'observer avec nos télescopes, et donc on pourrait éventuellement déceler des traces de vie grâce justement aux signaux qu'on peut capter avec nos télescopes. Mais nos télescopes aujourd'hui, ils permettent de capter des signaux que jusqu'à quelques centaines de millions d'années-lumière. Et du coup, au-delà de cette distance-là, on ne voit rien. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas voir l'ensemble de notre galaxie. On peut voir qu'une toute petite parcelle de notre galaxie.
Mais alors, comment les scientifiques, et j'en reviens à ce système planétaire TRAPPIST, comment peuvent-ils nous dire que 3 des planètes de ce système sont potentiellement habitable ?
Alors ça, on peut le dire, parce qu'en fait, les scientifiques utilisent une technique qui s'appelle la technique du transit, en fait, pour arriver à analyser, à savoir à quoi ressemblent ces planètes. Donc la technique du transit, en fait, elle consiste à regarder quand les planètes passent devant leur étoile. Et en fait, c'est un peu comme si cette planète, quand elle passe devant son étoile, elle fait une sorte d'ombre, en fait, et elle atténue l'éclat de l'étoile. Et du coup, on peut savoir à peu près quelle taille elle fait, quelle masse elle fait, et à quelle distance elle est de son étoile en fonction de la vitesse à laquelle elle passe devant son étoile. Donc ça, c'est des déductions qu'on peut faire à des distances très très lointaines.
Donc là, on est dans un petit blocage un peu technologique, hein, si je vous entends bien. Qu'est-ce qu'il faudrait déjà pour voir plus loin ? Nos télescopes, ils sont pas assez puissants, c'est ça ? Il faudrait inventer autre chose ?
Alors, nos télescopes, oui, ils sont limités en termes de sensibilité. Et en fait, on n'arrête pas de construire des télescopes qui sont de plus en plus puissants. Mm-hmm. Donc là, par exemple, il y a un télescope qui vient d'être construit en Chine, qui s'appelle le télescope FAST, qui est aujourd'hui le plus grand du monde et donc qui a augmenté très nettement la sensibilité et la capacité de voir encore plus loin. Parce qu'en fait, ce télescope, il fait 500 mètres de diamètre. La taille est à peu près de 3 terrains de foot. Et plus le télescope est grand, plus il est capable de capter des photons, donc ces particules de lumière qui viennent de très très loin.
On n'en entend jamais parler de ces extraterrestres, du coup on se dit que ça ne doit pas exister, et pourtant il y a de nombreux scientifiques qui se passionnent pour cette question et pour leur existence et qui croient en leur existence.
Oui, tout à fait. Il y a énormément de scientifiques qui sont persuadés qu'on va trouver un jour et même d'ici la fin du siècle une trace de cette vie extraterrestre. Et ça, c'est vraiment pour des questions statistiques. C'est-à-dire que dans notre galaxie, il y a des centaines de milliards de planètes potentiellement habitables. Et donc, je veux dire, il serait très improbable qu'il n'y ait aucune forme de vie qui souhaite développer dans notre galaxie.
Ailleurs. Mais il faut quand même se mettre d'accord peut-être sur le terme extraterrestre, parce que moi, quand on me dit extraterrestre, évidemment, je pense à E.T., mais un extraterrestre, ça peut être juste une forme de vie, en fait. Un microbe, par exemple, trouvé sur une autre Terre.
Et d'ailleurs, il y a beaucoup plus de chances que si on trouve un jour des extraterrestres, ils ressemblent plutôt à des micro-algues ou des bactéries. Parce qu'en fait, si on regarde comme la façon dont la vie s'est développée sur Terre, pendant très longtemps, en fait, il y a uniquement ces formes de vie unicellulaires qui étaient présentes. Ces formes de vie unicellulaires, elles sont présentes depuis 3,8 milliards d'années, alors que l'Homo sapiens, enfin nous, on n'est présent que depuis 200 millions d'années. Donc oui, on pourrait croiser plus facilement une bactérie qu'un être à deux bras et deux jambes.
Alors là, on parle ensemble des recherches récentes menées pour trouver la trace d'une vie extraterrestre, mais l'humanité se passionne pour cette question depuis longtemps.
Bah alors cette question, elle s'est posée très tôt en fait, dès l'Antiquité. En fait, on trouve des traces de ce questionnement dans les écrits de Plutarque, par exemple, un philosophe de la Rome antique, savoir est-ce que il y aurait des habitants sur la Lune. Voilà, parce que au tout début, même avant le mythe du Martien, on s'est posé la question, est-ce qu'il n'y aurait pas des habitants sur notre satellite
Ce qu'on voyait, ce qui était visible à l'œil nu de tous les humains. Donc c'est la première question qu'on s'est posée. Et puis alors certains scientifiques, on avance dans le temps, y ont perdu la vie. Par exemple, Giordano Bruno, qui était-il et pourquoi a-t-il été exécuté?
Alors c'était un philosophe italien. Qui a été brûlé sur le bûcher par l'Inquisition pour propos hérétiques. Alors, bon, il avait déjà mal commencé parce qu'il disait qu'il affirmait que la Terre tournait autour du Soleil, ce qui était à l'époque un véritable blasphème, parce qu'on pensait que la Terre était au centre du monde. Mais il a aussi affirmé qu'en fait, dans l'univers, l'univers était peuplé d'étoiles comme la nôtre, avec autour des planètes qui pouvaient abriter la vie. Et c'était extrêmement visionnaire parce que finalement, il parlait de, par exemple, ce système de planètes. Une Terre trappiste, c'est exactement ça. Et donc, il parlait de ces exoplanètes qui peuplent partout l'univers. Et finalement, ces exoplanètes, on en a découvert qu'à partir de 1995. Et donc, Giordano Bruno, dès la Renaissance, avait cette intuition qu'il existait ce type de planète.
Et il a eu raison, trop tôt. Et si les extraterrestres nous avaient déjà contacté? On se demande c'est possible. Dans une minute sur RTL. Non, pas direct,
vous nous
l'auriez
dit.
Jamais.
Vous écoutez RTL.
Phénomènes qui existent, qui sont des observations plus ou moins troublantes et qu'on n'arrive pas au jour d'aujourd'hui à expliquer.
La curiosité est un vilain défaut.
Depuis l'arrivée des caméras vidéo, les documents amateurs sont de plus en plus nombreux à venir appuyer les témoignages d'OVNI.
20h-22h.
Des objets ou des lumières disparaissent à des vitesses vertigineuses dans nos cieux.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Mais alors, pourquoi n'a-t-on toujours pas trouvé les extraterrestres? C'est la question qui titille notre curiosité sur RTL et dans le magazine Ça m'intéresse de juillet. Avec nous, la journaliste Audrey Boëlly. On disait tout à l'heure qu'ils étaient trop loin, sans doute, pour nos super télescopes, parce qu'on peut pas encore, évidemment, on peut pas observer ni observer ces exoplanètes qui sont extrêmement lointaines. Mais alors, ces extraterrestres, peut-être qu'on les cherche pas au bon endroit.
Alors c'est tout à fait possible et c'est une question que sont posées récemment les scientifiques. En fait, on les a cherchés d'abord autour d'étoiles qui ressemblent au Soleil, hein, évidemment. Mais en fait, ces étoiles-là, elles constituent que 10% des étoiles de notre galaxie. Donc finalement, une toute petite partie. Et donc, on s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait aller regarder autour d'autres étoiles qui ne ressemblent pas à notre Soleil, qui s'appellent les naines rouges et qui sont plus petites et moins chaudes que le Soleil, mais qui peuvent abriter des planètes habitables. Donc dans leur système planétaire. Et donc maintenant on va aller regarder ces étoiles-là qui représentent elles 70% des étoiles de la galaxie, donc ça augmente nos chances de trouver un jour une vie extraterrestre.
Donc ça c'est un nouvel axe de recherche, mais qui cherche? Il y a un programme, je ne sais pas, international, français, beaucoup d'argent dépensé, qui cherche?
Alors, il y a beaucoup de laboratoires qui s'intéressent à cette question, mais c'est vrai que le plus connu d'entre eux, c'est un institut américain, ça s'appelle le SETI, et donc qui est vraiment dédié à la recherche des extraterrestres. Donc, eux, leur job, c'est d'utiliser tous les signaux qui sont réceptionnés par des radiotélescopes, de les analyser et d'essayer de trouver des anomalies anomalie dans ces signaux qui pourrait en fait être un signal caché venu d'une civilisation lointaine.
Le CETI, qui est l'Institut de recherche d'intelligence extraterrestre.
Et, voilà. Oui, c'est ça. Et donc, le travail de ces chercheurs, c'est de quoi ? De récupérer des signaux, d'envoyer des signaux de...
Alors, surtout de récupérer ces signaux et de les analyser avec des algorithmes. Donc, d'essayer de mettre au point des algorithmes qui soient les plus performants possibles pour arriver à analyser ce signal et à y détecter des anomalies qui pourraient être des signaux cachés, en fait, à l'intérieur du signal. Enfin, c'est-à-dire que l'ensemble...
Du bruit ambiant, c'est
voilà,
ça
de... Du bruit ambiant qui est envoyé par les étoiles, les planètes, enfin, tous les objets célestes. Mais d'arriver à détecter au sein de ce signal céleste un bruit qui pourrait être...
On a déjà eu des fausses joies, c'est-à-dire qu'il y a déjà des scientifiques qui se sont dit « Ah ça, ce bruit-là, ce signal-là, il est forcément d'origine extraterrestre. »
On en a très souvent, en fait. Oui. Donc là, très récemment, il y en avait un... À chaque fois, on a évidemment l'espoir que ce soit un signal extraterrestre. Mais là, on s'est aperçu que c'était en fait deux comètes qui passaient à proximité de la Terre et donc qui envoyaient ce signal. Et une anecdote assez drôle, c'est un signal vraiment qui titiller la curiosité des chercheurs depuis longtemps. Et en fait, on s'est aperçu que c'était un micro-ondes qui était dans l'observatoire et qui avait qu'envoyé en fait ce signal. Beaucoup de fausses joies. Et pour l'instant, aucune trace des extraterrestres.
Mais est-ce que la preuve d'une vie extraterrestre peut se trouver dans des données, mais sans qu'on le sache encore, c'est-à-dire sans qu'on n'ait pu les reconnaître ou qu'on...
Ou bien les analyser.
Oui, on n'ait plus les analyser, on ait les outils pour les analyser.
Alors tout à fait, c'est tout à fait possible en fait qu'on n'ait pas réussi encore à mettre au point des algorithmes assez fins pour arriver à détecter ces signaux. Et donc c'est tout le travail notamment du CETI. Et peut-être qu'un jour ils auront mis au point un programme informatique assez performant et qui permettra de détecter ce signal venu d'un autre... Alors, autre monde.
Audrey Bolli, on l'a un peu abordé tout à l'heure, la question de la forme, à quoi ressemblent-ils ces extraterrestres ? Peut-être que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à nouer de contact ou à prouver leur existence. Donc vous nous avez dit qu'ils pourraient ressembler à des bactéries, ou à des microbes. C'est quoi les conditions pour que la vie émerge sur une planète ?
Alors, c'est vrai qu'les scientifiques partent de ce qu'on connaît évidemment sur Terre, c'est-à-dire en se disant les deux ingrédients nécessaires à la vie, c'est l'eau et ce sont les molécules à base de carbone, les molécules carbonées. L'eau étant un très bon solvant de ces molécules de carbonées et qui du coup peuvent réagir entre elles et former les briques de la vie, les acides aminés, les sucres, etc. Donc voilà, on recherche finalement les mêmes ingrédients ailleurs. Mais il y a beaucoup de scientifiques qui se disent que finalement ces ingrédients de la vie pourraient être peut-être différents sur d'autres planètes.
Alors, Sylvie, des extraterrestres totalement à l'opposé de tout ce qu'on a pu imaginer dans les films de science-fiction, dans les romans, c'est ça ?
Voilà, alors déjà, même avec de l'eau et des molécules carbonées, on peut faire plein d'autres choses que nous. Donc, parce que les êtres vivants sur Terre se sont formés dans certaines conditions, avec un certain taux d'oxygène dans l'atmosphère, une certaine gravité. Par exemple, la densité de nos os ou notre taille est en fait liée à la gravité qui règne sur Terre. Donc, sur une autre planète avec des conditions complètement différentes, on pourrait obtenir des êtres vivants complètement différents avec exactement la même chimie.
On continue de chercher des extraterrestres dans la curiosité, mais ça ne sert peut-être à rien. Et si leur planète n'était pas encore née, tout simplement ? C'est ce qu'on va découvrir juste après les infos sur RTL.
Et puis dans notre seconde heure de curiosité, l'histoire du maillot jaune. L'histoire du maillot jaune et de ceux qui l'ont porté, ces coureurs de légende. On est à 3 jours du départ du Tour de France.
Vous écoutez RTL.
Cet engin en forme de cigare fut saisi sur pellicule alors qu'il stationnait au-dessus de Rhode Island en 1967.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnet.
Je n'ai pas peur des fantômes. Enfin, je ne crois pas.
La curiosité est un vilain défaut.
Le cerveau a tendance à se mettre en alerte.
RTL.
La vie extraterrestre dans l'œil de notre curiosité et cette question, pourquoi ne les avons-nous pas encore trouvés pour y répondre ? Audrey Bouelli, qui est journaliste au magazine Ça m'intéresse. Alors juste avant la pause, on se disait qu'ils n'étaient peut-être pas encore nés, tout simplement. Pourquoi une telle hypothèse ?
Ben oui, parce que l'univers en fait est encore jeune, il n'a que 14 milliards d'années. En fait, c'est extrêmement jeune parce que les astrophysiciens disent que des étoiles pourraient se former dans l'univers pendant encore 100 milliards d'années. Et donc, non seulement des étoiles, mais aussi beaucoup de planètes. Et en fait, visiblement, 92% des planètes habitables n'auraient pas encore vu le jour. Et donc, les formes de vie qui pourraient s'y développer non plus. Voilà.
Eh bien, cette question de la vie extraterrestre, il n'y a pas que vous qui vous la posez, il y a aussi nos partenaires de la Cité de l'Espace de Toulouse. Bonsoir Olivier Sanguy.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver au micro de la Curiosité. Alors, on vient d'évoquer plusieurs hypothèses pour expliquer l'absence de contact. Quelle est celle qui vous semble, à vous, la plus probable ?
Alors, la plus probable, en fait, celle qui m'amuse le plus, c'est peut-être que nous ne les intéressons pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas assez... On n'est pas assez évolué, ça a été abordé plusieurs fois par la science-fiction, 2001, l'Odyssée de l'espace, hein, le grand étalon du film de science-fiction, c'est le sujet. Le fameux monolithe qui est sur la Lune est une sorte d'alarme pour signaler qu'on est devenu intéressant puisqu'on est arrivé dans l'espace. Mais est-ce qu'on est vraiment intéressant ? Par exemple, vous prenez sur Terre les fourmis. Les fourmis, c'est considéré comme une société organisée, reines, combattants, ouvriers, etc. Mais on n'ouvre pas des ambassades chez les fourmis. Donc c'est peut-être un petit peu la même chose. Après, il y a une autre hypothèse favorisée par certains scientifiques qui, elle, est un petit peu plus triste. C'est celle de la Terre rare. C'est notamment Donald Brownlee, un scientifique qui a travaillé sur la mission Stardust de la NASA qui a ramené des poussières de comètes. Lui, il estime deux choses. La première, c'est que les conditions pour que la vie intelligente... Parce que là, on ne parle pas de microbes, hein, mais la vie intelligente apparaît, sont beaucoup trop compliquées pour que ce soit très répandu. Donc, ils sont peut-être trop loin. Et ensuite, il n'y aurait peut-être pas la quantité d'énergie suffisante pour faire de véritables voyages interstellaires. Donc, ils ne pourraient pas venir nous voir parce que, un, la physique limite ça, on ne pourrait pas dépasser la vitesse de la lumière, et deux, la quantité d'énergie qui serait nécessaire pour s'approcher de la vitesse de la lumière serait telle, eh bien, qu'ils seraient à court de carburant de toute façon. C'est un petit peu triste, mais ce sont deux hypothèses envisagées.
Alors, Olivier Sanguy, on peut aussi retourner la question. C'est-à-dire se dire que le contact a déjà eu lieu, si l'on en croit les nombreux témoignages sur les ovnis. Qu'est-ce que vous en pensez de ces témoignages ? Est-ce que certains sont fiables d'après vous ?
Jusqu'à maintenant, moi, j'ai jamais rien vu de fiable. Je me rappelle qu'il y a quelques années, à la Cité de l'Espace, on avait fait une exposition sur justement les objets volants non identifiés. Oui. Et on avait exposé des photos extraordinaires. Si vous les voyez, vous dites « Ah oui, ça, c'est un ovni ». Et en fait, derrière, il y a une explication le plus souvent météorologique, c'est-à-dire c'est même pas du spatial, c'est des nuages qui ont des aspects absolument extraordinaires, fantasmatiques, et l'œil non exercé, c'est-à-dire si on n'est pas météorologue professionnel, eh bien on se fait tromper. Et jusqu'à maintenant, les témoignages renversent la charge de la preuve. Par exemple, moi je peux vous dire, hier, dans mon jardin, j'ai mis au point l'hyperdrive et j'ai posé mon iPhone sur Mars. Alors vous allez me dire, prouvez-le. Je vais vous dire, allez sur Mars et vous trouverez mon iPhone. Voilà.
Merci beaucoup, Olivier Sanguy. Merci. À bientôt, Olivier. Micro de la curiosité.
À très bientôt.
Audrey Bolli, on peut aussi se plonger dans l'étude de Mars. Et cette étude de Mars, elle est intéressante pour accréditer la thèse d'une vie extraterrestre passée. C'est ça ?
Oui, parce qu'on peut se dire les extraterrestres sont pas encore nés, mais on pourrait aussi se dire que peut-être qu'ils sont déjà morts.
Ouais.
Et typiquement, on peut se le dire en regardant ce qui s'est passé sur Mars, puisque Mars avait toutes les raisons de nous ressembler il y a très très longtemps, puisqu'on a le même type de minéraux à sa surface. On sait que Mars a connu une période de volcanisme, et donc il y a pu avoir, comme sur Terre, une atmosphère de gaz carbonique avec suffisamment de densité d'atmosphère et d'effet de serre pour la présence, pour qu'il y ait une présence de l'eau. Et d'ailleurs, cette présence d'eau a été détectée via des méandres. On les voit depuis l'espace, hein, des méandres creusés par l'écoulement de l'eau.
Donc on voit des rivières, des fleuves, des lacs, c'est ça, grosso modo ?
Voilà, en tout cas, on voit des traces d'écoulement d'eau, et le robot Curiosity a découvert des minéraux hydratés, donc on se dit qu'il y a eu de l'eau liquide un jour sur Mars, mais tout ça n'a pas duré.
Pourquoi ?
Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 3,5 milliards d'années, en fait, la planète s'est refroidie, et notamment le noyau de la planète. Et en fait, un noyau en mouvement, comme on l'a sur Terre, une petite graine au centre de la planète, ça permet d'avoir un bouclier magnétique. Et en fait, ce bouclier magnétique protège la planète contre le vent solaire. En fait, c'est une sorte de vent de particules chargées.
Mmh.
Et en fait, ces particules, elles sont très nocives pour la vie, mais elles peuvent aussi emmener en fait l'atmosphère. C'est ce qui s'est passé sur Mars. En fait, elles frappent les molécules de l'atmosphère, elles les emmènent, et du coup, ça a chassé l'atmosphère martienne.
Et on ne vit pas sans atmosphère, évidemment.
Voilà. Donc il y a
la
ce
vie
problème.
Ne peut pas se développer sans atmosphère.
Et tout à fait. Et il y a le fait aussi que du coup, la pression a nettement baissé, et du coup, l'eau s'est évaporée, tout simplement. Donc il n'y avait plus de l'eau liquide à la surface de Mars, probablement il y a 2 milliards d'années. Et du coup, s'il y a eu de la vie qui s'est développée sur Mars, elle est probablement morte. Voilà.
Alors si on continue d'explorer d'autres planètes ou d'autres astres un peu moins lointains que le système planétaire Trappiste dont on parlait tout à l'heure, il y a Titan par exemple. Alors Titan c'est où déjà? C'est quoi Titan?
Alors Titan c'est une lune de Saturne hein, qu'on a
donc on est survolé... dans notre système solaire hein.
Exactement, qu'on a survolé et voilà. Et sur cette lune en fait on trouve une chimie très différente de ce qu'on trouve sur Terre parce que il n'y a pas d'eau qui s'écoule sur Titan, mais du méthane, donc des hydrocarbures. Donc on a des lacs, des rivières d'hydrocarbures. Donc c'est vraiment une chimie très différente. Et les scientifiques se disent que ça n'empêcherait pas forcément la vie de se développer, mais dans une chimie qui n'est pas du tout la même. Par exemple, au lieu d'avoir des êtres vivants construits autour de molécules carbonées, à base de carbone, ça pourrait être des molécules à base de silicium, parce que le silicium est très soluble dans le méthane et du coup est capable de former des liaisons avec d'autres atomes et de former du coup des molécules qui pourraient former des êtres vivants.
Donc là, on essaye aussi d'imaginer à quoi ils pourraient ressembler, c'est pas facile.
C'est extrêmement difficile. Mmh. En fait, on n'a aucune idée de à quoi ça pourrait ressembler et du coup, on ne saurait pas comment construire des instruments pour détecter ces formes de vie.
Mmh. Alors, une dernière histoire qui est dans le Ça m'intéresse, consacrée notamment à cette question sur la vie extraterrestre, c'est le travail de chercheurs suisses qui essayent de détecter de la lumière, c'est ça? Qu'est-ce qu'ils font exactement?
Alors en fait, ils partent du principe que si c'est une forme de vie qui a une chimie complètement différente, on n'a pas les outils pour les détecter, cette chimie. C'est ce qu'on fait avec Curiosity. En fait, on envoie des petits laboratoires ou avec la mission Rosetta qui est partie à la découverte d'une comète. Donc, on envoie des laboratoires qui sont là pour détecter de la chimie. Mais si on ne sait pas à quoi du tout ressemble cette chimie, on ne détectera jamais rien. Par contre, l'idée, c'est du coup de partir d'une autre caractéristique de la vie qui est le mouvement. Donc, le mouvement est vraiment, lui aussi, caractéristique de la vie. Donc, ces chercheurs ont mis au point un détecteur de mouvement qui permet de détecter le mouvement à l'échelle du milliardième de mètre, donc très très fin. Donc il pourrait détecter le mouvement d'une bactérie, d'un organisme unicellulaire. Et donc au lieu d'envoyer des laboratoires sur Mars ou ailleurs, et ben, on pourrait envoyer ce détecteur de mouvement.
Et ben voilà, une nouvelle piste pour éventuellement partir à la recherche des extraterrestres. Merci beaucoup.
Merci Audrey Boëlly. L'article est signé Antoine Capel. Il est à lire dans le magazine Ça m'intéresse de juillet. Et c'est en partenariat avec RTL. À bientôt, micro de la curiosité.
À bientôt, merci.
Merci.
Au revoir.
Vous écoutez RTL.